Jean-Claude Carrière.
Je suis quelqu'un de très raciné, de très enraciné. Dans un petit coin du Languedoc, dans de l'Hérault, toute ma famille des deux côtés vient de là depuis des siècles. Alors c'est peut-être ça, le fait que j'ai un pied enfoncé dans cette terre-là, qui fait que l'autre pied se balade tout le temps.
Ça peut pas faire de mal.
Et j'ai toujours été attiré, mais depuis que je suis vraiment tout petit, puisque quand j'avais 5 ans, j'ai demandé un jour un Bouddha à ma mère pour Noël. Elle a été trouver le curé pour lui demander si on pouvait m'offrir un Bouddha, si ce n'était pas interdit. Et le curé, qui était un brave homme, m'a dit que oui, à son avis, il ne connaissait pas très bien, mais le Bouddha était quelqu'un de pas mal. Alors, on est allé au bazar de Bédarieux m'acheter un Bouddha en plâtre doré que j'ai toujours.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Deux morceaux de bois qui flottent se rencontrent sur l'océan et l'instant d'après se séparent. De même, ta mère et toi, ton frère et toi, ta femme et toi, ton fils et toi. Tu l'appelles ta femme, ton père, ton ami, mais ce n'est qu'une rencontre sur le chemin. Ce monde est une roue qui tourne, un passage dans le grand océan du temps où nagent deux requins, la vieillesse et la mort. Rien ne dure, pas même ton corps. Aucun lien ne résiste au temps. En ce moment, tu ne vois pas tes ancêtres et tes ancêtres ne te voient pas. Tu ne vois ni le ciel, ni l'enfer. Qui fait le vent, le feu, la lune, le soleil, le jour, la nuit, les rivières, les étoiles? Tout est fixé dans cette création diverse, dont la cause n'est pas comprise. Nul ne reste, nul ne revient. Ce que tu désires, tu l'as. Ce que tu ne désires pas, tu l'as. Personne ne comprend pourquoi. Rien ne garantit le bonheur de l'homme. Où suis-je? Où irai-je? Qui suis-je? Pourquoi? Et sur quoi devrais-je pleurer? C'était un extrait du Mahabharata, grande épopée de 90 000 vers qui nous plonge dans la mythologie hindoue. C'est une œuvre poétique fondamentale et l'un des livres favoris d'un amoureux de l'Inde, écrivain, scénariste et traducteur Jean-Claude Carrière. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être à mes côtés à nouveau. La semaine dernière, nous avons parcouru vos souvenirs de cinéma et lu certains textes qui vous accompagnent depuis toujours. Ce soir, nous continuons à explorer votre bibliothèque idéale. Il y aura Victor Hugo, Marcel Proust, entre autres, mais aussi des extraits de votre œuvre, avec notamment Le vin bourru et votre dernier ouvrage paru, Croyance. Commençons nos lectures par quelques poèmes célébrant la femme. Voici un sonnet bien connu de Pierre de Marbeuf, poète baroque qui vécut au XVIIe siècle. À vous, Jean-Claude Carrière.
Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est amère et l'amour est amer. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer. Car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer. Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammé. Et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. La mère de l'amour eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau. Mais l'eau, contre ce feu, ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.
Voici maintenant un extrait de Sarah la baigneuse, un poème méconnu de Victor Hugo qui s'ouvre par ces vers d'Alfred de Vigny.
Le soleil et les vents, dans ses bocages sombres, des feuilles sur son front faisaient flotter les ombres.
Sarah, belle d'indolence, se balance dans un hamac au-dessus du bassin d'une fontaine, toute pleine d'eau puisée à l'Ilissus. Et la frêle escarpolette se reflète dans le transparent miroir avec la baigneuse blanche qui se penche pour se voir. Chaque fois que la nacelle qui chancelle passe à fleur d'eau dans son vol, on voit sur l'eau qui s'agite sortir vite son beau pied et son beau col. Elle bat d'un pied timide, l'onde humide, où tremble un mouvant tableau, fait rougir son pied d'albâtre et folâtre rit de la fraîcheur de l'eau. Reste ici caché, demeure. Dans une heure, d'un œil ardent tu verras sortir du bain l'ingénue, toute nue, croisant ses mains sur ses bras. Car c'est un astre qui brille, qu'une fille qui sort d'un bain au flot clair cherche s'il ne vient personne et frissonne toute mouillée au grand air. Elle est là sous la feuillée, éveillée au moindre bruit de malheur et rouge pour une mouche qui la touche comme une grenade en fleurs. On voit tout ce que dérobe, voile ou robe, dans ses yeux d'azur en feu, son regard que rien ne voile est l'étoile qui brille au fond d'un ciel bleu. L'eau sur son corps qu'elle essuie roule en pluie comme sur un peuplier, comme si goutte à goutte tombaient toutes les perles de son collier. Mais Sarah la nonchalante est bien lente à finir ses doux ébats. Toujours elle se balance en silence et va murmurant tout bas. Découvrons maintenant les triolets fantaisistes de Charles Cros, poète autodidacte qui fut aussi un inventeur génial. Il présenta notamment lors de l'exposition universelle de 1867 un télégraphe automatique et a longtemps travaillé à un projet de reproduction des couleurs. Voici un extrait du recueil Le coffret de Santal, paru en 1873.
Sidonie a plus d'un amant, c'est une chose bien connue, qu'elle avoue, elle, fièrement. Sidonie a plus d'un amant parce que pour elle, être nue est son plus charmant vêtement. C'est une chose bien connue, Sidonie a plus d'un amant. Elle en prend à ses cheveux blonds, comme à sa toile l'araignée prend les mouches et les frelons. Elle en prend à ses cheveux blonds. Vers sa prunelle ensoleillée, il vole, pauvre papillon, comme à sa toile l'araignée. Elle en prend à ses cheveux blonds. Elle en attrape avec les dents quand le rire entr'ouvre sa bouche et dévore les imprudents. Elle en attrape avec les dents sa bouche quand elle se couche, reste rose et ses dents dedans. Quand le rire entr'ouvre sa bouche, elle en attrape avec les dents. Elle les mène par le nez comme fait, dit-on, le crotal des oiseaux qui l'a fasciné. Elle les mène par le nez quand, dans une moue, elle étale sa langue à leurs yeux étonnés, comme fait, dit-on, le crotal, elle les mène par le nez. Sidonie a plus d'un amant, qu'on le lui reproche ou l'en loue, elle s'en moque également. Sidonie a plus d'un amant, aussi, jusqu'à ce qu'on la cloue au sapin de l'enterrement, qu'on le lui reproche ou l'en loue, Sidonie aura plus d'un amant.
En plein cœur du romantisme de Victor Hugo et de Charles Cros apparaît un jeune poète rebelle et voyant, Arthur Rimbaud. Il veut écrire les silences, noter l'inexprimable et fixer les vertiges. Mais avant une saison en enfer et les illuminations, Rimbaud s'essaie à la poésie dans son cahier de Douai. Voici le premier poème de ce cahier, jamais publié du vivant de Rimbaud. Première soirée. Le poète y retrace les maladresses des adolescents découvrant l'amour. Elle était fort déshabillée. Et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, mi-nue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnaient d'aise ses petits pieds si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier, papillonné dans son sourire, et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles, elle eut un doux rire brutal, qui s'égrenait en clair trille, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent, veux-tu finir ? La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvre et palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai deux mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement, tout près, tout près.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvrer tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Brassens, ce qui me touche le plus chez Brassens, c'est sa voix. J'y suis très sensible parce que c'est la mienne. C'est-à-dire, nous sommes absolument du même tiroir, il est de 7. Je suis né à 30, 40 kilomètres de là, et chaque fois que j'entends sa voix, qu'il chante ou qu'il parle, c'est comme le bruit de ma rivière ou du vent dans les arbres. C'est quelque chose qui ne dit pas que je ne fais pas attention à ce qu'il dit, bien entendu, mais c'est surtout le bruissement de ses consonnes légèrement enveloppées comme ça et qui vont d'une voyelle à l'autre qui me touche par-dessus tout.
Jean-Claude Carrière, vous revenez souvent à l'enfance, celle des autres, mais aussi la vôtre, que vous avez passée dans l'Hérault entre 1931 et 1945. Dans le vin bourru, vous devenez l'ethnologue de vous-même et vous racontez vos souvenirs de famille, d'école, de pêche, de lecture et d'insectes. À chaque pas, dans l'herbe, des sauterelles s'envolent, de toutes les tailles. Pour les attraper et s'en servir quelquefois pour la pêche, il faut se pencher et doucement placer une main devant elles, car elles sautent toujours en avant. Certaines, en volant, déploient des élytres rouges. On peut aussi attraper les mouches à la main. Mais s'il faut, dans ce cas, placer la main derrière la mouche ou sur le côté, l'approcher très lentement et la lancer d'un geste vif. On saisit la mouche en vol. Sur les rosiers, des hannetons fouillent le pollen. Près de la rivière, les longues et légères libellules, aux ailes bleues, semblent emportées par un souffle. Parfois, elles volent à deux, collées l'une à l'autre, et dessinent un cœur dans l'air. Les parents nous disent alors qu'elles sont en train de s'aimer. Partout l'été, les crissements sans fin qui montent puis qui descendent des cigales et des caou-caou, plus petits que nous pensions être les mâles. On attrape les cigales avec un bâton. Sans méfiance, elles y montent. Elles n'arrêtent pas de chanter. On ramène en douceur le bâton pour saisir sèchement la cigale d'un seul coup de main. Ça marche une fois sur deux. Des papillons de toutes couleurs, des blancs, des bleus, des nacrés, d'autres avec des yeux dans le dos, et aussi des carabes noires au mouvement lent, des mille pattes, et parmi eux des scolopendres, les plus longs, assez dangereux. Des milliers d'araignées à l'affût dans les pièces vides, en passant on jette une mouche dans leur toile pour s'amuser, des moustiques, des courtières, des scorpions cachés sous les pierres sèches. Mon enfance s'est passée dans un incessant bruit d'insectes, parmi toute une vie multiple. Mais c'est maintenant que je le remarque. Et les grillons, la nuit, que nous forcions à sortir de leurs trous en les agaçant avec une paille. Et les guêpes, les frelons, les abeilles, mon grand-père faisait du miel à Saint-Martin. Et je m'étonnais de le voir partir aux ruches dans les châtaigniers avec tout son équipement qu'il avait bricolé lui-même et lui donner l'air d'un fantôme, son masque, ses gants, son soufflet. Ce regard sur l'insecte, je l'ai souvent partagé plus tard avec Louise Buñuel. De sa formation d'entomologiste, il gardait la capacité d'observer sans bouger, pendant 5 ou même 10 minutes, une simple mouche sur un mur. Et là, je la regardais avec lui. Assez souvent, il disait « Une mouche est une merveille ». Et les arnes jaunes, annelées, qu'on conserve vivantes dans une grande jarre parmi des débris de châtaignons dont elles se nourrissent, et les coccinelles. Les bêtes à bon Dieu que tout le monde aime et respecte, qui grimpent le long de la main et passent d'une main à l'autre, et les coléoptères verts et d'autres jaunes aux reflets mordorés, et les cafards tués à coups de pantoufles, et les punaises qui puent quand on les écrase, et les vers luisants qui brillent la nuit dans les chemins sombres appelant l'amour, et les lucioles et tous ces milliers d'anonymes qui viennent se cogner, se brûler le soir contre la lampe qui éclaire le devant des portes, et les vers blancs des mûriers qui donnaient autrefois le bombix, et les mantes religieuses qu'on oblige à faire la prière sous la menace de les tuer, et les gros criquets lourds au ventre rayé, et ces bêtes étranges dont je ne connais pas le nom, hauts montés sur pattes, catamarans d'un autre monde qui se tiennent à la surface de l'eau et s'y déplacent à toute vitesse, et les chenilles, les pucerons, et partout les millions de fourmis en nid ou en colonne menant à nos côtés une vie parfaite, sans chef apparemment, sans dessein précis, sans souci de nous. Une vie que l'on peut passer des heures à regarder sans la comprendre. Et tous les insectes sans nom, sous la moindre pierre qu'on soulève, ou sous les écorces des arbres. Toute une vie obscure, très ancienne, très riche, qu'un enfant sans effort bouleverse.
Allez, garde. On a piqué.
Oh là là, ce qui fait chaud.
Tu me donnes un peu de vin ?
On est tomates espagnoles. Sont pas mauvaises,
hein? C'est vrai que c'est beau ici. Alors, si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
Mais il y a tout ici, y a absolument tout. Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
Plus on a des noix, c'est très important. Du miel aussi.
J'adore le miel. On pourra agrandir la basse-cour.
Oh oui, les œufs frais. Faut manger un œuf par jour, maman disait toujours ça. Viens.
Oh, je ne suis jamais senti aussi jeune depuis 30 ans.
Vive la Révolution !
Vive la Révolution !
La Révolution !
Vive la Révolution !
Ouvrons votre dernier livre paru aux éditions d'Il Jacob, Croyance. Dans cet ouvrage, vous interrogez la place de la croyance dans nos vies. Est-elle rébellion ou ralliement ? Est-ce un réconfort ou une aberration ? Selon vous, elle remplace peu à peu la connaissance et enferme les hommes dans la certitude. Voici un extrait du dernier chapitre, intitulé « Apprendre à vivre ».
Ce matin, ma fille, à 12 ans, apprenait patiemment que la ville de Marseille
a été fondée il y a longtemps par des gens qui s'appelaient les Phocéens. À quoi cela lui servira-t-il dans son avenir? Je me le demandais. De l'autre côté, la croyance nous tend les bras dès l'enfance et nous dit « Mais ne vous donnez pas tant de peine. À quoi bon s'encombrer des Phocéens? Cela n'a aucun intérêt, aucun sens. Abandonnez les leçons qui vous torturent et les examens qui vous sanctionnent, toujours injustement. Ouvrez votre catéchisme ou votre Coran ou votre Torah et ces livres vous diront tout. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour vivre. Et si vous n'avez pas appris à lire, demandez qu'on vous lise toutes ces pages, une à une, à voix haute. Cela suffira. Inutile de vous perdre dans les jungles impénétrables de l'histoire ou de la science, laquelle est fille de l'illusion. Oui, le savoir est une illusion. Dieu a devancé vos hésitations. Il sait tout, forcément, puisqu'il a tout créé. Il sait même ce que nous ne savons pas, ce que nous ne saurons jamais. N'essayez pas d'en savoir davantage. Les livres sont le fléau de l'enfance, disait Rousseau, qui en écrivait sans cesse pourtant. Alors que la foi, qui existait en son temps, est toujours la même aujourd'hui, strictement la même. Le savoir s'est effondré, Dieu n'a pas varié d'un iota. Sa parole reste la vérité suprême, alors que la parole humaine, quelle qu'elle soit, s'érode et s'oublie. Nous entendons ce discours de tous les côtés et sur tous les tons, alors que nous le pensions caduque ou pour le moins vieillot. Pas du tout. Il revient en force, partout dans le monde, et il trouve un allié inattendu dans les techniques nouvelles, lesquelles sont précisément le fruit des avancées de la connaissance. Ces techniques nous fournissent en effet, à des prix abordables, de petits appareils qui renferment tout notre savoir. Nous glissons dans notre poche chaque matin l'ensemble des connaissances humaines, rêves anciens, prodigieux, la connaissance universelle pour une centaine d'euros. D'où le sursaut de la croyance. Vous voyez, nous disent les nouveaux missionnaires, à quoi bon vous tourmenter? À quoi bon vous abrutir à apprendre tout un bric-à-brac que vous devrez un jour oublier? Pourquoi perdre ainsi votre enfance et votre jeunesse, votre santé, votre vie quelquefois? D'autres ont fait tout ce travail pour vous. Je pourrais continuer de cette manière longtemps car je connais ce discours par cœur et depuis longtemps pour l'avoir entendu sous divers cieux dans différentes langues. Moi aussi, à partir de 5 ans, dans le village où je vivais, on m'a obligé à apprendre des pages et des pages de catéchisme catholique qui n'était, comme je m'en suis rendu compte assez vite, qu'une énumération de racontars et de légendes. Mais prendre constamment refuge dans les croyances établies expose à un danger. Car nous oublions alors, dans la douce somnolence de l'ignorance, le point essentiel, que notre esprit est un instrument de recherche et que si nous l'obligeons à travailler sur des matières qui peuvent paraître rebutantes, il se nourrit, il s'enrichit à ce contact aride, il se développe lui-même en travaillant. Notre esprit est le seul outil qui, loin de s'user, s'aiguise et se renforce quand nous nous en servons. Ces équations sur lesquelles nous nous énervons pendant des heures ne nous serviront à rien, c'est possible, mais elles ont aidé l'esprit à trouver en lui-même des ressources nouvelles. Elles l'ont provoqué, découragé, mais aussi modifié, aguerri. Il sera plus fort, plus éclairé, plus largement ouvert pour se confronter aux problèmes que la vie ne manquera pas de glisser sur son chemin. Et même les Phocéens, qui sait, apparaîtront à un tournant de son existence. C'est pourquoi, lorsque je regarde cette petite fille qui casse sa jeune tête sur des conjugaisons étranges ou sur les premiers peuples qui occupèrent les îles britanniques, je me dis que ce qui importe, ce n'est pas la matière même qu'elle apprend, c'est le travail obscur auquel se livre son esprit, encore tout frais, à chaque seconde, un travail que nous ne pouvons pas apprécier, ni même décrire. Je sais enfin que cette petite fille qui peine sur ses leçons est une créature humaine, fragile et menacée de mille manières. Je sais que son esprit est en danger, plus encore que son corps. Et j'essaie de le protéger de toutes les certitudes, de toutes les affirmations qui le guettent. Je ne peux rien prévoir de ce que sera sa vie, de son côté, même si elle ne peut pas comprendre ce qu'on lui demande de faire, elle est en train de s'armer à sa manière, sans le savoir. Quant aux vieilles histoires de catéchisme, aux histoires saintes, je ne les ai pas oubliées, elles m'ont suivi. Elles m'ont aidé peut-être, ici ou là. Elles m'ont fourni un premier langage. Elles m'ont quelquefois servi de métaphore. Elles m'ont amené peu à peu à l'histoire des religions, qui est un fleuve aux affluents multiples, sans source ni embouchure. Plus tard, elles ont reçu la visite courtoise des légendes grecques et même indiennes, aztèques, africaines. Tous ces récits composent un pot pourri qui voyage partout avec moi. De temps en temps, je me laisse aller, je m'y plonge. Je fais se rencontrer celui-ci, celle-là. Je les écoute aussi longtemps que je suis vivant. J'y prends un plaisir antique qui m'a été transmis et je souhaiterais que d'autres le partagent. Car si notre quotidien est appelé à disparaître, notre imaginaire nous survivra.
Le corps du Christ n'est pas renfermé dans le pain. Par le sacrement de l'Eucharistie, l'hostie devient le corps du Christ. Qu'on le veuille ou non, il y a transubstantiation. C'est tout différent.
Je voudrais bien, mais j'avoue que je ne comprends pas.
L'hostie est le corps du Christ. C'est tout. Il faut prendre les paroles du Christ à la lettre.
Je m'excuse, mais personnellement, c'est une chose que je ne peux pas concevoir.
Mais raison de plus. Credo, quia absurdum. La religion sans mystère ne serait pas la religion.
Monsieur le curé, je voudrais vous demander...
Oui ?
Une fois dans l'estomac, qu'est-ce qui devient le corps du Christ ?
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées. Tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus, d'hymnes qui résonnent. Et si en plus, d'hymnes, y a personne. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus, d'hymnes qui résonnent. Et si en plus, d'hymnes, il n'y a personne. Et l'angélus, d'hymne qui résonne. Et si en plus, d'hymne y a personne.
Ouvrons votre livre La paix des braves, qui relate les mémoires d'un appelé du contingent en pleine guerre d'Algérie. À travers la voix de plusieurs soldats, vous retracez le long quotidien de la guerre, la camaraderie, mais aussi l'ennui. Voici un extrait du chapitre Chambré. Ça cogne aujourd'hui.
Ah, ça tu peux le dire, ça cogne.
Moi je sue rien que de penser à la chaleur.
Putain de bled.
Et il paraît qu'il parle de rallonger la sauce. Il y a des mecs assétifs, ils en sont au 30e mois.
Putain de sa mère.
C'est les classes creuses qui foutent la merde. C'est ça la vacherie. C'est les classes creuses.
J'ai encore pété mon lacet, ils sont pourris leurs lacets, ma parole.
Paraît qu'ils vont balancer le colon, qu'ils vont nous foutre un colon de choc et qu'on va en baver des rondelles.
Putain de sa mère.
De Gaulle a décidé de mettre le paquet. Il en a plein de cul, paraît.
Plein de cul de quoi? Il l'a voulu, il l'a eu. Saper des braves, merde.
Mais il regrette qu'il a pas pu se battre contre les Allemands, alors il veut en tâter un peu avant qu'il se fasse trop vieux.
Tu déconnes.
Ben non. Moi, je le comprends, cet homme, il est général après tout. Même qu'il prendrait le commandement en personne. Il étudierait les cartes en ce moment.
Alors là, chapeau les mecs, s'il faut retourner au baroud, moi je me casse. Hein. Je vous le dis, vous ferez ce que vous voudrez, moi je me casse.
Raconte pas de conneries, Lulu. Comment tu te casses? Tu peux me le dire?
Je me casse, je t'en dis pas plus. Il y a 3 légionnaires qui se sont tirés à Gardaïa. Ils ont piqué 2 jeeps et même un peu de fric, il paraît. Tout ce qu'il fallait, et maintenant, ils sont bien peinards au Niger.
Et qu'est-ce qui glande du matin au soir au Niger? Tu parles d'une joie, sans solde en plus?
Pour le pognon, on se démerde. Ils ont dû piquer du matériel et le revendre.
Ça va pas loin. Et les tempêtes de sable, où ils se les mettent, les copains?
Voilà où ils peuvent.
T'as beau râler, Lulu, tu iras au baroud comme les copains et tu te feras crever le boudin comme un grand, moi je te le dis. Et on te filera une chouette médaille et tu seras content de la montrer à ton papa. Alors écrase un peu, arrête de faire le mariole.
Courrier est arrivé?
Ouais.
Il n'y avait rien pour moi?
Non.
Chapeau.
Et ton caméléon, au fait, on ne le voit plus?
Une cigogne me l'a bouffé.
Oh la salope. Ça bouffe les caméléons, les cigognes?
Ça bouffe tout.
Oh, et elle te manque, ta bestiole?
Ouais, je l'aimais bien.
Oh, elles sont salopes, les cigognes. Ils changeaient pas vraiment de couleur, si?
Non, il faut être honnête, pas vraiment.
Ouais. Tu l'as bien observé, t'es sûr?
Je l'ai posé sur toutes les couleurs possibles. Sur du bleu, sur du rouge.
Même sur tes couilles qui sont vertes.
Ah, toi, tu es vraiment poilant, tu sais.
Ah, je vais te dire, je trouve pas ça très attachant, caméléon. C'est quand même vachement loin de l'homme.
Et l'homme, tu trouves ça attachant?
Ça dépend.
Les fenêques non plus, c'est pas attachant. Et c'est cruel comme la vérole.
T'as pas une pipe qui traîne?
Tiens, sers-toi.
Le serpate des transmissions, tu sais, le petit blond avec les oreilles en écoute radar. Eh bien, il avait un fennec qui couchait avec lui. Et une nuit, il lui a mordu les couilles, le con.
Du charri.
D'un charri, rien du tout. T'as ma parole? Il me les a montré, ses couilles, hier matin. On voyait les traces des dents. C'est mauvais, ces bêtes-là. Hein.
De toute façon, le petit blond, pour ce qu'il en fait de ses couilles.
Et toi, gros con, qu'est-ce que t'en fais des tiennes?
Ça te regarde?
Il y a quelqu'un pour une belote?
Avec cette chaleur, ma cache. Moi, quand je suis, je peux pas réfléchir. Faut aller vivre dans l'Arctique. Tu seras le roi au pays des cervelles froides.
Ouais, tu veux que j'en parle au colon, il peut te muter, tu sais.
Putain de bled.
Ça, tu l'as déjà dit, tu te répètes.
Même pas une gonzesse baisable dans le secteur. Rien, que dalle. Hein, on n'est pas aidé, putain de sa mère.
De toute manière, mon beau loulou, s'il y avait une gonzesse baisable, ne regrette rien parce qu'elle serait pas pour toi.
Qu'est-ce que t'en sais, tête de nœud?
Ben, t'as pas le genre qui plaît ici.
Vos gueules, les mecs, on roupille un peu. Et...
Celui-là, toujours à pioncer. Moi, de parler, ça me fait oublier.
Mais moi, c'est le contraire. Tu crois que tu as parlé pendant une heure, tu regardes ta montre et Tintin. Les aiguilles ont à peine bougé.
Bah, peut-être parce qu'on dit que des conneries.
Et de quoi tu voudrais qu'on cause?
Revenons au classique et aux mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, que nous avions déjà parcouru la semaine dernière. Ce soir, vous avez choisi un extrait bien particulier. Un texte où l'auteur marque une pause et regarde derrière lui le temps qui a passé.
Et moi, spectateur assis dans une salle vide, loge désertée, lumières éteintes, je reste seul de mon temps, devant le rideau baissé, avec le silence et la nuit. Les vents ont dispersé les personnages au milieu desquels j'ai vécu. Je reste pour enterrer mon siècle. Il y a des temps où une élévation de l'âme est une véritable infirmité. Elle passe pour une lubie. Pourquoi rester étranger à la marche du siècle, à la transformation des mœurs? Quant à ce pauvre passé, il est sans force. Ses mains sont débiles et tremblantes. Aurions-nous peur de ce contemporain de nos pères? On parle de le mettre aux invalides, de lui faire une pension alimentaire et de le laisser radoter dans son coin jusqu'à ce qu'il soit mort, tout à fait mort. 20 fois, des sociétés se sont formées et se sont dissoutes autour de moi. Cette impossibilité de durée et de longueur dans les liaisons humaines, cet oubli profond qui vous suit, cet invincible silence qui s'empare de notre tombe et s'étend de là sur notre maison, me ramène sans cesse à la nécessité de l'isolement. Je rentre dans mon fort intérieur comme un lièvre dans son gîte. Là, je me remets à contempler la feuille qui remue, ou le brin d'herbe qui s'incline. La vieillesse est une voyageuse de nuit. La terre lui est cachée et ne découvre plus que le ciel brillant au-dessus de sa tête. Les vieillards d'autrefois étaient moins malheureux et moins isolés que ceux d'aujourd'hui. Si en demeurant sur la terre, ils avaient perdu leurs amis, peu de choses du reste avaient changé autour d'eux. Étrangers à la jeunesse, ils ne l'étaient pas à la société. Maintenant, un traînard dans ce monde a non seulement vu mourir les hommes, mais il a vu mourir les idées, principes, mœurs, goûts, plaisirs, peines, sentiments. Rien ne ressemble à ce qu'il a connu. Il est d'une race différente de l'espèce humaine au milieu de laquelle il achève ses jours. Si le cœur ne peut se perfectionner, si la morale reste corrompue malgré les lumières, république universelle, fraternité nation, paix générale, fantôme brillant d'un bonheur durable sur la terre. Adieu. J'ai peur maintenant des sensations. Le temps, en m'enlevant mes jeunes années, m'a rendu semblable à ces soldats dont les membres sont restés sur le champ de bataille. J'ai un tel dégoût de tout, un tel mépris pour le présent et pour l'avenir immédiat, une si ferme persuasion que les hommes, désormais, pris ensemble comme public, et cela pour plusieurs siècles, seront pitoyables, que je rougis d'user mes derniers moments au récit des choses passées, à la peinture d'un monde fini dont on ne comprendra plus le langage et le nom. Lorsqu'on regarde ou qu'on écoute sa vie passée, on croit voir sur une mer déserte la trace d'un vaisseau qui a disparu.
Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart is as black, oh, your heart is as black.
Baron de Charlus, Monsieur Charles Swann. À voir les choses exactement, je n'ai presque plus aucun plaisir à être dans son lit. C'est curieux, il m'arrive même de la trouver laide.
Et pour conclure, voici la dernière page d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. On connaît bien l'histoire. Le narrateur qui a cherché tout au long du livre le moyen de retenir le temps a enfin trouvé la solution. C'est par l'écriture qu'il parviendra à sauver un peu de la vie. Ces pages sont une double révélation pour lui. Il découvre non seulement sa vocation, mais il prend aussi la mesure du vertige du temps, du poids des années sur les hommes. C'était cette notion du temps incorporé, des années passées, non séparées de nous, que j'avais maintenant l'intention de mettre si fort en relief dans mon œuvre. Et c'est parce qu'ils contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment. Parce qu'ils contiennent tant de souvenirs, de joie et de désir déjà effacés pour eux, mais si cruels pour celui qui contemple et prolonge dans l'ordre du temps le corps chéri dont il est jaloux, jaloux jusqu'à en souhaiter la destruction. Car après la mort, le temps se retire du corps et les souvenirs si indifférents, si pâlis, sont effacés de celle qui n'est plus et le seront bientôt de celui qu'ils torturent encore, eux qui finiront par périr quand le désir d'un corps vivant ne les entretiendra plus. J'éprouvais un sentiment de fatigue profonde à sentir que tout ce temps si long, non seulement avait sans une interruption été vécu, pensé, secrété par moi, qu'il était ma vie, qu'il était moi-même, mais encore que j'avais à toute minute à le maintenir attaché à moi, qu'il me supportait, que j'étais juché à son sommet vertigineux, que je ne pouvais me mouvoir sans le déplacer avec moi. La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne savais pas avoir. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, et en moi pourtant, comme si j'avais des lieux de hauteur tant d'années. Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré en le regardant assis sur une chaise, combien il avait peu vieilli, bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessous de lui. Dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes, comme celles de ces vieux archevêques sur lesquels il n'y a de solide que leur croix métallique et vers lesquels s'empressent les jeunes séminaristes, et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et dont tout d'un coup, ils tombent. Je m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas. Il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin, que je portais si douloureusement en moi. Si du moins il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce temps dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui, et j'y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace. Une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps.
Je voudrais me faire un petit plaisir et dire de mémoire quelques vers que je trouve parmi les plus beaux de la langue française. C'est d'Alfred de Vigny et c'est la fin de La maison du berger. Un homme a amené la femme qu'il aime à la campagne. Ils se sont retirés. Et il lui dit : « Nous marcherons ainsi ne laissant que notre ombre sur cette terre ingrate où les morts ont passé. Nous nous parlerons d'eux à l'heure où tout est sombre, où tu te plais à suivre un chemin effacé, à rêver, appuyé aux branches incertaines, pleurant comme Diane auprès de ses fontaines. Ton amour taciturne est toujours menacé.
J'ai beaucoup aimé la vie, mais j'ai beaucoup aimé les arts. Maintenant, ces sentiments anciens me semblent très précieux. C'est comme une collection. Je m'ouvre à moi-même mon cœur, comme une espèce de vitrine. Je le regarde, un tant d'amour que les autres n'auront pas eu. Et je me dis que ce sera bien embêtant de quitter tout ça.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Philippe Palares. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki. Merci infiniment, Jean-Claude Carrière.
De rien, monsieur.
Pour les livres que nous avons lus ce soir, rendez-vous sur franceinter.fr à la page de l'émission pour retrouver toutes les références. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Thank you.